France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Alors évidemment, mes admirations, c'est incontournable, évidemment, il y a La Fontaine. La Fontaine, c'est l'auteur que je suis, que j'essaye de côtoyer depuis quasiment 50 ans. C'est l'écrivain le plus complexe, contrairement à ce qu'on imagine. C'est celui que Jean-Laurent Cochet définissait comme l'écrivain qui, en le pratiquant, t'emmène à toute la science du métier de comédien. Je l'ai appris, j'avais 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans, j'étais chez Jean-Laurent Cochet. Et l'éblouissement que Cochet m'a produit avec toute sa connaissance du répertoire, il y avait évidemment Molière, il y avait Racine et il y avait La Fontaine. Alors La Fontaine, oh le malentendu, oh le La Fontaine de l'école, oh le La Fontaine anonyme, comme dit Paul Valéry, oh le La Fontaine qui est à la fois l'écrivain préféré des Français et l'écrivain le plus étonnamment inaccessible en réalité. Car derrière toutes ces petites histoires, La Fontaine l'adaptateur, La Fontaine d'abord intrinsèquement et en premier lieu l'adaptateur, car toutes les poésies de La Fontaine ont été écrites bien avant lui. Tout a été écrit par Ésope, tout a été écrit par Pipelet en Iran. Tout cet incroyable réservoir d'humanité, tout était écrit. Qu'est-ce qu'a fait La Fontaine ? Qu'est-ce qui a fait que La Fontaine est si important dans la littérature française ? Eh bien, c'est son génie d'adaptateur. Car quand vous lisez Ésope, les histoires sont exactement les mêmes. La Fontaine ne les a pas inventées. C'est Ésope, le fabuliste. Mais ça n'a rien à voir. Ésope, c'est lourd. La Fontaine, c'est léger. La Fontaine, c'est fluide. C'est fin. Il y a une phrase merveilleuse de Céline. Quand on lui disait « Mais c'est qui vos grands écrivains ?» Il disait « C'est François Villon, Rabelais, évidemment, et puis surtout La Fontaine. » Et il avait dit cette phrase étonnante « La Fontaine, c'est fin, c'est ça et c'est tout. » C'est final, La Fontaine, vous comprenez ? J'ai mis du temps à comprendre cette phrase. Eh bien, ça veut dire que les mots que La Fontaine a choisis, il est impossible qu'il y en ait d'autres. Voilà. Alors, quand on parle de La Fontaine, de son génie, on parle souvent de sa morale. Moi, vraiment, modestement, la morale de La Fontaine n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je me souviens d'une rencontre avec Jean-Claude Carrière, le grand ami des cinéastes, le grand ami de Peter Brook, ce grand adaptateur, ce grand écrivain, qui vivait dans une rue du 9e arrondissement, dans une rue qui emmenait à Pigalle, et je le rencontrais. Et un matin, il a eu la gentillesse de m'inviter dans sa très jolie maison, dans un rez-de-chaussée, en plein 9e, vraiment le quartier d'Hugo, quoi. Et il m'avait dit « Je suis d'accord avec toi, Fabrice, La Fontaine est un génie stylistique, mais je déteste sa morale. » Évidemment, la morale est une morale conservatrice, prudente, c'est pas du tout une morale révolutionnaire, c'est pas du tout une morale d'ouverture, c'est plutôt de la méfiance, du bon sens. C'est pas une morale hystérique, c'est plutôt une morale... Mais moi, je dis que c'est pas la morale qui m'intéresse chez La Fontaine. C'est beaucoup plus le style, l'incroyable légèreté, le génie du style. Et pourtant, la morale nous aide. Ça, c'était vraiment le conseil de Jean-Laurent Cochet. Elle nous aide parce que ça n'est qu'en imaginant un contradicteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, c'est-à-dire avec les propos de La Fontaine, que tu peux éprouver le besoin de raconter une histoire, de raconter cette fable. Mais si tu ne la racontes pas avec cette nécessité, comme un avocat qui défend une cause, la fable de La Fontaine peut être anonyme. C'est très complexe, La Fontaine. C'est peut-être l'écrivain le plus complexe. Il y a une phrase d'André Gide qui résume assez bien le génie de La Fontaine. Gide écrit « La perfection de La Fontaine est beaucoup plus subtile, mais non moins exigeante que celle de Racine. Elle étend sur moins d'espace une apparence plus négligée. » C'est merveilleux. « Une apparence plus négligée. » La touche est si discrète qu'elle pourrait passer inaperçue. Rien n'est plus loin de l'insistance romantique que La Fontaine. Insistance romantique, rien n'est plus loin. La Fontaine passe outre aussitôt et si vous n'avez pas compris, tant pis. Alors je vais essayer de vous dire les premiers. Je dis bien essayer parce que je pense toujours à la phrase d'Edwige Feuillère, grande actrice des années 60, une grande actrice à qui on disait « Mais est-ce que c'est dur de dire des textes ?» Et mon prof la commentait souvent. Elle avait répondu « C'est pas difficile, c'est impossible. » Donc on va essayer de faire de l'impossible. Et on va penser à une phrase de Victor Hugo « Dieu nous aime parce que nous avons tenté, non pas parce que nous avons réussi. » Cette fable, elle s'appelle « Le chat et un vieux rat ». Alors, elle est née d'une découverte pendant le Covid. Je voyais en bas de chez moi des gens se faire des fêtes alors qu'on était en pleine montée du Covid. Et à la fin de la fête, ils picolaient, donc ça se roulait des pelles, etc. Et moi, j'avais pas envie d'être un censeur, mais j'arrêtais pas de penser à la phrase de La Fontaine. J'arrêtais pas de me dire « Attention, soyez prudents ». Il va nous essayer de nous convaincre qu'il faut être prudent, La Fontaine. Il va essayer de nous dire « J'ai lu chez un conteur de fables qu'un second Rodilard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort aux rats, les souricières n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière, les souris étaient prisonnières, qu'elle n'osait sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort, et du haut d'un plancher se pend, la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rôt, de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelques dommages. Vous voyez à quel point Audiard aussi a pompé beaucoup chez La Fontaine. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, c'est étonnant, croit que c'est châtiment. Tout d'un coup, châtiment, il n'y a pas d'article. Le peuple des souris croit que c'est châtiment, qu'il a fait un larcin de rôt, de fromage, égratigner quelqu'un, j'adore égratigner, égratigner quelqu'un, causer quelques dommages, enfin, qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur niara. Puis ressortent en font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête, le pendu ressuscite et sur ses pieds tombants attrape les plus paresseuses. Nous en savons plus d'un, dit-il en les gobant, ces tours de vieille guerre. Et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez tout au logis, il prophétisait vrai, notre maître Mitis. Pour la seconde fois, les trompes et les affines. Ce qui est compliqué chez La Fontaine, c'est qu'on ne doit pas perdre une seconde l'argument. Pourquoi je raconte tout ça? Je raconte tout ça parce que j'essaye de dire aux gens, faites gaffe quand il y a le Covid, vous n'êtes pas obligé de vous rouler des pelles complètement, non. Donc, faut pas perdre. Il prophétisait vrai, notre maître Mitis, pour la seconde fois, les trompes et les affines, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisée, se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ce fut à lui bien avisé, la gente trotte-menu s'en vient chercher sa perte. Un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloquant fariné ne me dit rien qui vaille. S'écria-t-il de loin au général des chats, je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté. Et savait que la méfiance est mère de la sûreté. C'est ça qui n'aimait pas Jean-Claude Carrière. Mais peu importe, parce que pour moi, à partir du moment où c'est la morale, et j'ai pas à la juger, de La Fontaine, ce que moi qui suis exécutant, eh bien, ça me permet de pouvoir dire des choses merveilleuses. Par exemple, c'est en parlant du dernier rat qui est prudent, comment il le définit ? Un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. C'est l'anti-Proust, La Fontaine, c'est l'anti-Proust. C'est une phrase d'Orsena, mais elle est vraiment adaptée. C'est l'anti-Proust, un rat sans plus s'abstient d'aller flairer autour. Écoutez la beauté, c'était un vieux routier, il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille. Se bloquant, j'adore cette phrase, même il avait perdu sa queue à la bataille, se bloquant farine, il ne me dit rien qui vaille. S'écria-t-il de loin au général des chats, je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté. Et oui, mais évidemment, c'est pas optimiste, c'est la maison de Socrate, tiens, pour l'amitié. Tu sais, on est tous persuadés qu'on a plein de potes, surtout à notre époque. Oh, moi, j'ai beaucoup d'amis, etc. La Fontaine évoque une petite fable très courte sur l'amitié. Il raconte que Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage, l'un trouvait les dedans, pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage, l'autre blâmait la face, ça veut dire qu'il n'aimait pas la façade, hein. L'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits, quelle maison pour lui, l'on y tournait à peine, plutôt ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle put être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison, chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose, rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Eh oui, oui, on n'a pas autant de potes qu'on croit. J'ai toujours trouvé éblouissant. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Vous avez vu comme ça coule ? Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais fou qui s'y repose. Rien n'est plus commun que le nom. Rien n'est plus rare que la chose. Il y a une troisième fable. Alors, celle-là, elle est épouvantable, tellement elle est géniale et tellement elle est difficile à exécuter. Je vous résume le début parce qu'il est tellement archaïque. Là, on est paumé. La Fontaine dit que l'invention des arts étant un droit d'aînesse, ça veut dire que les arts ont été inventés par nos aînés, c'est-à-dire les Grecs. D'ailleurs, il le dit, nous devons l'apologue à l'ancienne Grèce. Mais ce champ ne se peut tellement moissonner que les derniers venus n'y trouvent à glaner. En gros, on peut toujours bosser sur ce champ. Hein. La feinte, et c'est étonnant parce qu'il dit la feinte, ça veut dire F-E-I-N-T-E, la feinte, l'invention, le mensonge, est, à cette époque du XVIIe, la création littéraire. Hein. La feinte est un pays plein de terres désertes. Tous les jours, nos auteurs y font des découvertes. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé, autrefois à Racan, Malherbe l'a conté. Racan, Malherbe, deux grands poètes immenses. Je t'en veux dire un trait assez bien inventé, autrefois à Racan, Malherbe l'a conté. Ces deux rivaux d'Horace, héritiers de Salire, disciples d'Apollon, nos maîtres pour mieux dire, se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins, comme ils se confiaient leurs pensées et leurs soins, Racan commence ainsi, « Dites-moi, je vous prie, vous qui devez savoir les choses de la vie, qui par tous ces degrés avaient déjà passé, et que rien ne doit fuir en cet âge avancé. À quoi me résoudrais-je ? Il est temps que j'y pense. Vous connaissez mon bien, mon talent, ma naissance. Dois-je dans la province établir mon séjour, prendre emploi dans l'armée, ou bien charge à la cour ? Tout au monde est mêlé d'amertume et de charme. La guerre a ses douceurs, l'hymen a ses alarmes. Si je suivais mon goût, je saurais où buter, mais j'ai les miens. Le peuple, la cour a contenté. Quoi, mais j'ai les miens, peut-être je me trompe, mais j'ai les miens, le peuple a contenté. Et Malherbe là-dessus contentait tout le monde. écouter ce récit avant que je réponde. Et là, j'ai pensé à mon prof qui disait « Voilà, Adèle Van Redt veut que tu dises des fables et tu te dis « contenter tout le monde ». C'est impossible. Il y en a qui diront « il nous fait yesh », il y en a qui diront « c'est pas possible », il y en a qui diront « c'est pas mal ». Donc, on ne peut pas contenter tout le monde. Et je vais te le prouver. J'ai lu, dans quelque endroit, qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allait vendre leur âne un certain jour de foire. Afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit, on lui lia les pieds, on vous le suspendit, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là? Le plus un des trois n'est pas celui qu'on pense. Le meunier à ces mots connaît son ignorance, il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûtait fort l'autre façon d'aller, se plaint en son patois. Le meunier n'en a cure, il fait monter son fils et il suit. Et d'aventure passent trois bons marchands, cet objet leur déplut. Le plus vieux garçon s'écria tant qu'il put au là-haut, descendez, que l'on vous le dise, jeune homme, qui menait laquais à barbe grise. C'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter. L'enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte. Quand trois filles passant, l'une dit, c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud comme un évêque assis fait le veau sur son âne et pense être bien sage. Il n'est, dit le meunier, plus de veau à mon âge. Passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après main, colis, bec, au surcours renvoyé, l'homme crut avoir tort et mit son fils en croupe. Au bout de 30 pas, une troisième troupe trouve encore à gloser. L'un dit, ces gens s'en fout, le beauté n'en peut plus, il mourra sous leur coup. Et quoi, charger ainsi cette pauvre bourrique? N'ont-ils point de pitié pour leur vieux domestique? Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. Parbleu, dit le meunier, bien fou du cerveau, qui prétend contenter tout le monde et son père. Essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux. L'âne se prélassant marche seul devant eux. Un quidam les rencontre et dit, est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire enchasser. Ils usent leurs souliers, conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête. Et la chanson le dit, beau trio de bonnet. Le meunier est parti, je suis âne. Il est vrai, j'en conviens, je l'avoue. Mais que dorénavant on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose, ou qu'on ne dise rien, j'en vais faire à ma tête. Il le fit, et fit bien quant à vous. Suivez Mars, ou l'amour. Où le prince, allez, venez, courez, demeurez en province. Prenez femme, abbaye, emploi, gouvernement. Les gens parleront, n'en doutez nullement. C'est ça qu'on doit se dire quand on attaque quelque chose. C'est pas possible d'avoir l'unanimité. Et oui, c'est pour ça que ça doit être terrible de faire de la politique. Ils veulent avoir l'unanimité, mais c'est pas possible. D'ailleurs, il le dit, quant à vous, suivez Mars. Ça veut dire, branchez-vous sur la guerre. Ou l'amour, branchez-vous sur les plaisirs du libertinage. Ou les relations amoureuses. Ou le prince, soyez dans l'administration de Louis XIV. Allez, venez, courez, demeurez en province. Quittez Paris, allez vivre à Caen. À Caen ou à Bordeaux, peu importe. Prenez femme, abbaye, devenez curé ou moine, emploi, gouvernement. Les gens parleront, n'en doutez nullement. Et là, il n'y a qu'une musique qui peut vraiment nous ouvrir la porte, qui est un point commun avec l'enthousiasme en plus. C'est évidemment Mozart.
Fabrice Lucchini et ses admirations littéraires.
Thank you.
Voilà deux fables qui sont réunies dans une seule. Et je pense encore à Jean-Claude Carrière. Évidemment, ces deux fables proposent aux êtres humains, non pas de se contenter, mais de, quand ils ont à peu près ce qu'ils veulent, le mieux c'est de prendre et pas vouloir toujours mieux, mieux, mieux. Alors Jean-Claude Carrière aurait pensé, mais enfin, tu te rends compte, c'est très réducteur. Effectivement, le héron, c'est une fable qui raconte que la prétention des exigences de cet oiseau ou la prétention de la jeune fille vont l'emmener au marasme. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on doit se contenter de rien, non. Laissons parler La Fontaine. Tout part de ce sentiment très important que l'exécutant doit avoir. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre à vouloir trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. C'est ça le sentiment. Gardez-vous de rien, ne méprisez rien quand vous avez à peu près votre compte. Je vais te raconter une histoire, tu vas voir. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec, emmanché d'un long cou, il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour, ma commère la carpe y faisait mille tours. Avec le brochet, son compère, le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre, mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Alors les tanches, c'est des boissons hyper bas de gamme, mais la phrase est sublime. Vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, d'étanche, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair et pour qui me prend-on ?» La tanche rebutait. Il trouva du goujon. « Goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec. Oh, Dieu ne plaise, il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. » La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ça n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai épuisé ces leçons. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci, cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétives de moitié. Quoi, moi, quoi, ces gens-là, l'on radote, je pense. À moi les proposer, hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après, les bons partis, les médiocres gens, vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Oh, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris. Quelques jeux, puis l'amour, déloger, qu'elle rit de moins en moins, etc. Elle sent chaque jour déloger. C'est extraordinaire pour voir que le visage se transforme. Il dit, elle sent chaque jour déloger, déloger. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour, puis ses traits, choquer et déplaire, puis sans sorte de phare. Ses soins ne purent faire qu'à l'échappa au temps. C'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Connaît cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari !» Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre à vouloir trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout si vous avez à peu près votre compte. Mais c'est tellement merveilleux. La vision de la chirurgie esthétique au XVIIe siècle. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Connaît cet avantage pour les ruines du visage. On imagine Guitry dire ça, hein. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Connaît cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Là, ce qu'on vient d'entendre, ça s'appelle un miracle. Il y a une fable, évidemment, qu'on peut imaginer, pas misogyne, parce que ce serait de la folie, mais il y a une fable qui s'appelle « Les femmes et le secret ». Il aurait bien pu dire « Les hommes et le secret », ça n'est pas du tout le propos. C'est une fable dont le point de départ, c'est un peu le même texte que Victor Hugo dans son fameux texte « Le mot ». Vous savez, « Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites, tout peut sortir d'un mot, qu'en passant vous perdites, tout, etc. etc. » Mais La Fontaine, bien avant Hugo, savait que le danger et de garder un secret. Et d'ailleurs, dans notre vie quotidienne, il faut le reconnaître, quand les gens vous appellent en disant « J'ai un scoop énorme », tu dis quoi ? Un tel est avec un tel, ou une telle est avec un tel, et que c'est des gens très connus, et le mec termine en disant « C'est complètement entre nous, hein ?» Oh, tu dis « Oui, oui, mais t'es déprimé, parce que c'est quand même merveilleux, le potin, le concept du potin. Barthes avait écrit un très beau texte sur le potin. Le potin, selon Barthes, c'était le début de la philosophie grecque. C'est-à-dire, il imaginait Platon un matin dire « Ah, te voilà, machin, tu sais qu'hier soir, on a parlé d'un tel. Ah bon, marchons !» Et c'est la philosophie grecque qui commence, selon Roland Barthes. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. J'adore parce qu'elle dit, on se dit, tiens, il est misogyne. Non, parce qu'il rajoute, et je sais même sur ce fait, bon nombre d'hommes qui sont femmes. Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit étant près d'elle. Oh Dieu, qu'est-ce cela ? On imagine, hein, le couple. Hein. Lui, elle, elle a pris l'exo pour se détendre, elle est tranquille, et l'autre, comme pour essayer de vérifier, il commence à hurler, oh Dieu, qu'est-ce cela ? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi ? J'accouche d'un œuf. D'un œuf ? Oui, le voilà, j'adore leur dialogue, d'un œuf, oui, le voilà, frais et nouveau pondu, gardez bien de le dire, on m'appellerait poule, c'est sublime, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires. Il dit pas qu'elle est bête, il dit qu'elle est neuve. La femme, neuve sur ce cas, ainsi que sur maintes autres affaires, crut la chose. Et promit ses grands yeux de se taire. Mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse indiscrète et peu fine sort du lit quand le jour fut à peine levé et de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme quatre. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. Vous moquez-vous, dit l'autre. Ah, vous ne savez guère quel je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répondre. En plus de 10 endroits, au lieu d'un œuf, allons dit 3. Ce n'est pas encore tout, car une autre commère en dit 4 et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret. Comme le nombre d'œufs, grâce à la renommée, de bouche en bouche, allait croissant. Avant la fin de la journée, il se montait à plus d'un 100. Mais c'est que rien ne pèse tant qu'un secret.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini sur France Inter.
Dans un prologue, il y a un texte de La Fontaine que j'ai toujours vraiment adoré, c'est « À Monseigneur le Dauphin ». Je chante les héros dont Ésope est le père, trouble de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. » Je trouve ça extraordinaire, je ne sais pas pourquoi, et même les poissons m'a toujours rendu dingue. Je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'il dit s'adresse à tous, tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Illustre rejeton d'un prince aimé des cieux, sur qui le monde entier a maintenant les yeux, et qui, faisant fléchir les plus superbes têtes, comptera désormais ses jours par ses conquêtes. Quelque autre te dira d'une plus forte voix les faits de tes aïeux et les vertus des rois. Je vais t'entretenir de moindres aventures, te tracer en ces vers de légères peintures, et si de t'agréer je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Je chante les héros dont Ésope est le père. Tu vois, l'héritage de La Fontaine sur Ésope, hein, il le dit, je chante les héros dont Ésope est le père. Troupe de qui l'histoire, j'adore le mot, troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçons. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Ce qu'ils disent s'adresse à tous tant que nous sommes. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes. Ça n'est pas que de la belle rime les unes derrière les autres. C'est une liberté de ton, hein. C'est incroyable. Tout parle en mon ouvrage, à l'air de rien, mais il y a une rupture. Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons. Thank you.
sur France Inter, Fabrice Lucchini et ses admirations littéraires.
Je remercie pour cette émission Xavier Pestoggia, qui a été à la réalisation, Philippe Thibault à la technique, Thierry Dupin pour la musique et Emmanuel Garacino. Je vous retrouve dimanche prochain à 19h20, si vous le désirez, bien entendu, pour une lecture d'extraits de Mort à crédit et du Voyage au bout de la nuit du génial et tragique Louis-Ferdinand Céline. Très bonne soirée à vous.